vous invite à tourner avec moi dans Jean chapitre 13, verset 34. Jean chapitre 13, verset 34. Un psychiatre a dit que le plus grand besoin de l'homme, c'est d'être aimé, et d'être capable de montrer et de donner de l'amour, et c'est vrai. La parole nous montre aussi que Dieu nous a créés pour aimer et être aimé, et quand ces deux connexions-là ne sont pas là, l'homme essaie de trouver ce qu'il peut trouver auprès de Dieu dans ce monde, et il est fort déçu. Le monde est un maître intransigeant qui détruit à petit feu tous ceux qui ont décidé de vivre comme les valeurs du monde. Aujourd'hui, nous allons maintenant regarder le dernier commandement que Jésus a donné. De tous ses commandements, celui-ci est le dernier qu'il a donné avant sa crucifixion. Il a donné un autre commandement après sa résurrection, et c'est celui d'aller dans notre monde affamé d'amour pour partager son évangile. Et c'est ce que Jésus dit ici au verset 34. Nous lisons, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et aujourd'hui, nous allons parler de l'invitation qui nous est lancée d'aimer d'un amour qui ressemble à celui de Jésus-Christ. Regardons au début de ce chapitre où Jésus nous a donné un glorieux exemple de cet amour lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Verset 1. C'était la veille de la fête de la Pâque. Jésus savait quelle heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux, c'est-à-dire qu'il les a aimés jusqu'à la fin. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, nous dit le texte, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se levant de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura la taille. Le texte biblique, c'est intéressant, nous dit, le texte grec nous dit qu'il a enlevé ses vêtements de dessus, et pour garder ses vêtements de dessous, donc ses sous-vêtements, ce qu'on appelle ses sous-vêtements. Donc, il a enlevé ses vêtements de dessus pour garder ses sous-vêtements et placer une serviette autour de sa taille. Ensuite, il va verser de l'eau dans un bassin, et il va se mettre à laver les pieds des disciples et à les essuyer, puis à liser avec le linge qui était autour de sa taille. J'aimerais simplement vous mettre dans le contexte ce matin pour parler de la coutume qui existait à l'époque, à ce moment-là. Et je pense que c'est une merveilleuse coutume. À l'époque, les gens portaient des sandales. Ils ne portaient pas des souliers comme on porte aujourd'hui, des souliers lacés comme je porte moi présentement. Ils portaient des sandales ouvertes, mais sans avoir de bas comme nous en portons lorsque nous avons des souliers. Vous dites des chaussettes ici, non? À cette époque, les routes étaient pavées, étaient asphaltées, étaient en béton. Ils n'étaient pas pavés, en tout cas, comme le sont nos routes aujourd'hui. Il y avait donc beaucoup de poussière, beaucoup de gravillons et beaucoup de saleté. Voilà pourquoi, lorsque vous entriez dans une maison accueillante, il y avait là un pot d'eau fraîche, rempli d'eau fraîche, un bassin, un petit banc, et habituellement, il y avait un serviteur qui accueillait les gens. Et qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il vous accueillait. Et il vous faisait asseoir sur le petit banc. C'est pas lui qui s'assoyait sur le banc. Il vous faisait asseoir sur le petit banc. Et là, il vous faisait déposer les pieds dans le bassin. Et là, il se mettait à genoux. Et puis là, il commençait à laver vos pieds, enlever la poussière. Et après, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il vous massait un peu vos pieds, vous donnait un petit massage. Il vous les lavait les pieds pour que vous puissiez circuler dans la maison. Et là, les gens, bien sûr, ils se faisaient aller les orteils. Ça fait du bien se faire masser les pieds. C'est excellent, non? C'est excellent se faire masser les pieds. Et là, les gens, eh bien, c'était une façon d'accueillir les gens. Pardon. Et ensuite, eh bien, le serviteur essuyait avec une serviette. Et Jésus va reproduire ça ici. Pardon. Jésus s'apprête à prendre un dernier repas avec ses disciples que nous appelons la Sainte Cène. Verset 1. Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Sachant qu'il serait bientôt crucifié, que Judas allait le trahir, sachant tout cela, lorsqu'il est entré dans la maison, il n'y avait aucun serviteur pour l'accueillir et pour lui laver les pieds. Alors, voyant que personne ne se portait volontaire pour accomplir cette tâche, Jésus va se lever de table, il va enlever ses vêtements, Il va prendre un linge qu'il va mettre autour de sa taille. Ensuite, il va verser de l'eau dans un bassin. Et lui, le Seigneur de gloire, se met à laver les pieds des pécheurs, des collecteurs d'impôts et des autres disciples qui provenaient de milieux différents. Et à leur essuyer les pieds, le linge avec le linge qu'il avait autour de la taille. Et un peu plus tard, il va leur dire, verset 14, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Puis il ajouta, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardon, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. » Pardon. Quelle belle leçon d'amour. Et ce matin, j'aimerais voir quatre choses au sujet de cet amour et voir si ces quatre choses sont une réalité dans nos vies ce matin, dans notre cœur et dans nos vies. La première, c'est que l'amour manifesté par Jésus-Christ est un amour désintéressé, c'est-à-dire un amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont imbus d'eux-mêmes. Nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes. La semaine dernière, j'ai dit que si vous alliez dans les librairies, vous alliez trouver des livres qui parlent de l'amour de soi, de l'estime de soi, de l'importance du regard des autres et de l'accomplissement de soi. Notre société est construite sur cela. Et pourtant, nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'humiliant, faisant le travail d'un esclave et d'un serviteur. Remarquez ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Ceux qui ont leur Bible, tournez avec moi dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 8. Regardez ce qu'il dit concernant le Seigneur Jésus et nous-mêmes. Philippiens 2, les versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Écoutez maintenant ceci. Regardez la suite. Mais il s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire qu'il a renoncé à lui-même et à tout ce qu'il avait en prenant la condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Frères et sœurs, nous servons un Dieu qui s'est révélé à nous-mêmes, lui-même à nous, en trois personnes. Mais Jésus est venu du ciel, il a accepté de quitter son trône et à venir parmi nous comme un serviteur, comme un esclave. Jésus a quitté la gloire du ciel, il s'est humilié lui-même et il est écrit. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Combien, frères et sœurs, parmi nous luttons encore aujourd'hui pour préserver, conserver notre réputation? Nous aimons parler comment à partir de rien nous sommes arrivés à quelque chose dans la vie. Il arrive assez souvent parfois d'entendre un évangéliste témoigner comment Dieu l'a sauvé de la prison, et le titre de son message est souvent « De la prison à la prédication ». Je suis content d'entendre ce genre de témoignage où, à partir de rien, Jésus a fait quelque chose avec quelqu'un. Mais Jésus, ici, a tout laissé tomber. Il a tout laissé ce qu'il avait au ciel pour être traité comme un moins que rien, ne faisant aucun cas de sa réputation. Quel exemple pour nous ce matin! Mais les disciples de Jésus ne pensaient pas comme leur maître. Dans Luc chapitre 22, qu'on a vu la semaine passée, lors de ce même repas où Jésus va leur laver les pieds, ils vont avoir une grande discussion avec eux. Voici ce qui est écrit. Les disciples se mirent à discuter vivement pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme étant le plus important. Pouvez-vous imaginer l'esprit qui les animait? Ils avaient vécu 3 ans, vécu, suivi jour et nuit Jésus pendant 3 ans. Et là, alors qu'il va être livré à la mort, ils sont en train de se poser la question, ils discutent fortement ensemble pour savoir qui est le plus important parmi les disciples. Et Jésus va leur répondre, « Les rois des nations leur commandent, et ceux qui exercent le pouvoir sur ces nations se font appeler bienfaiteurs, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus important parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. » C'est facile à lire, hein? Mais à mettre en pratique, c'est un autre contrat, hein? Ça nous poursuit dans nos tripes toute notre vie, à cause de notre éducation, à cause des valeurs du monde, de ne pas passer pour être moins important qu'un autre, de ne pas montrer qu'on est moins intelligent qu'un autre, de ne pas montrer qu'on a moins de capacités qu'un autre. Et Jésus ici donne un exemple à son Église il dit que celui qui veut être le plus important parmi vous se considère comme étant le plus jeune et que celui qui commande, eh bien, comme celui qui sert. Jésus n'a jamais dit « ne soyez pas important », mais il a dit « ne le faites pas à la manière du monde ». Les grands de ce monde se font servir, ceux qui sont grands dans leur royaume de Dieu sont au service des autres. Imaginez les disciples ici qui se disputent en se disant les uns aux autres, « Hey, je suis meilleur que toi, je suis plus important que toi, je vais être assis à la droite de Dieu. Moi non, moi je vais être assis à la gauche de Dieu. » Jésus leur dit, « Hey, oubliez tout cela, vous réfléchissez comme les gens du monde, vous réfléchissez comme l'esprit qui dirige ce monde. Vous voulez être important, alors soyez au service des autres et renoncez à vous-même. » Hey, les règles changent dans le royaume de Dieu, hein? C'est incroyable! Tu veux être le pasteur d'une église? Assure-toi que tu vas être le serviteur de tous. Tu veux faire partie du conseil de l'église? Assure-toi que tu vas être le serviteur de tous. Tu vas avoir une responsabilité dans l'église? Assure-toi que tu vas être le serviteur de tous. Ça, c'est les règles du royaume de Dieu. Dans une usine, tu vas être contremaître, pas de problème. Tu vas pouvoir te faire servir par tout le monde, tu vas pouvoir diriger tout le monde, tu vas pouvoir donner des ordres à tout le monde. Mais il n'en est pas ainsi dans le royaume de Dieu, dit le Seigneur. Tu veux servir dans mon Église, vois les autres comme étant supérieurs à toi-même. Amen. Quel changement de style, quel changement de règles pour le royaume de Dieu. Et dans un geste d'humilité, Jésus va laver les pieds de ses disciples. Est-ce qu'il avait une mauvaise opinion de lui-même? Non, absolument pas. Il est écrit que Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait, qu'il retournait à Dieu. Est-ce que vous pensez que Jésus avait une piètre opinion de lui-même? Non, regardez le contexte. Sachant tout cela, sachant qui il était, il ôte ses vêtements, il prend une serviette et il lave les pieds de ses disciples. Mes amis, voilà ce qu'est l'humilité, c'est l'exemple que Jésus nous donne. Vous vous dites peut-être, mais en quoi cela me concerne-t-il ce matin? Qu'est-ce que j'ai à voir à cela, avec cela? Mon ami, vous êtes quelqu'un d'important pour Dieu. Mes amis, vous êtes quelqu'un d'important pour Dieu. Vous êtes né de Dieu. Si vous êtes né de Dieu, vous allez comme Jésus, re-aller au Père. Vous êtes quelqu'un d'important pour Dieu. Vous pouvez maintenant être un serviteur. Frères et sœurs, l'amour véritable, nous dit Jésus ici par son exemple, c'est un amour désintéressé. C'est un amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Et c'est difficile quand on vient au Seigneur de mettre ça de côté, mais c'est une leçon que le Seigneur nous montre à travers ce passage. Paul écrit, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. » Frères et sœurs, ce qui est important dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ce que les gens pensent de vous. C'est ce que Dieu pense de vous. Pourquoi c'est important de réaliser cette notion? Parce que ce que les gens pensent de moi, c'est en fonction de ce qu'ils me voient de moi, ou ce qu'ils entendent de moi, c'est en fonction des apparences. Mais pourquoi c'est important de fixer nos yeux sur ce que Dieu pense de moi? Parce que Dieu, les apparences, il n'y en a rien à cirer. Dieu, c'est dans nos cœurs qu'il regarde. Et dans nos cœurs, il sait si nos cœurs sont entièrement consacrés à lui. Il sait si nos cœurs lui appartiennent parfaitement. Et il faut se rappeler que ce n'est pas devant les hommes qu'on va comparaître un jour, c'est devant Dieu, et qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. Amen. Paul continue, il dit, « Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu nous a donnée à chacun, simplement dire, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu stimule quelqu'un sans pour autant qu'il s'enfle d'orgueil, et elle rend quelqu'un humble sans le dévaloriser ou le déprécier. » Et nous ne vivons pas en bombant le torse ou en faisant semblant que nous sommes humbles, mais en ayant une juste perspective de qui nous sommes en Jésus-Christ. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Par conséquent, je suis maintenant libre de vous servir. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, donc je dois lui faire confiance entièrement, c'est son œuvre. Il me permet de me nommer responsable d'un ministère. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Seigneur, accomplis ton œuvre à travers moi. Je ne peux pas tout dire ce matin, mais vous irez sur le site Internet, au moins il y a un tiers du message qu'on va garder sur Internet, c'est des petits points de détail. Mais j'aimerais continuer pour être capable de terminer le message dans son entièreté ce matin. Alors, qu'est-ce que c'est le véritable amour? Qu'est-ce que c'est l'amour alors qui ressemble à Jésus-Christ? C'est l'amour désintéressé, c'est-à-dire de ne pas se préoccuper d'être le numéro un. Hey, mon église est plus grande que la tienne. Hey, il y a plus de monde qui sont sauvés dans la mienne. Vous savez qu'aux États-Unis, on est tombé dans ce piège-là. Hein? On évalue la qualité d'une église sur le nombre de personnes qui la fréquentent. Il y a des églises qui ont 40 000 personnes. Moi, je n'irai pas dans une église de 40 000 personnes. Mais ça passe facilement. On passe facilement de façon anonyme dans une église de 40 000 personnes. Pas de compte à rendre à personne. Hein. Je viens pas, personne ne s'en aperçoit. Je fais ce que je veux. Hein. C'est plus difficile dans une petite église, dans une petite communauté, dans une famille. C'est plus difficile. Je vous regarde, j'ai une mémoire... Moi, j'ai une mémoire visuelle, photographique incroyable. Je sais qui est là, qui devrait être assis là. Je sais qui devrait être assis ici. Je sais qui n'est pas là ce matin. Et dans une église de 40 000 personnes, au troisième balcon en haut, c'est impossible de savoir qui n'est pas là, hein, qui est là. Et c'est pour ça que je crois sincèrement qu'une église locale, quand il est rendu à 150 personnes, on doit penser d'implanter une autre église. Pour qu'on puisse, avec le conseil, s'occuper des gens. Frères et sœurs, l'amour désintéressé et l'orgueil ne peuvent jamais habiter dans le même cœur. C'est seulement en ayant un esprit d'humilité que nous pouvons manifester l'amour de Jésus envers notre prochain. L'amour manifesté par Jésus est un amour désintéressé, un amour qui ne manifeste pas son propre intérêt, mais c'est aussi un amour indéfectible, c'est-à-dire c'est un amour qui ne nous fera jamais défaut. Tu me donnes, je t'aime. Tu me donnes pas, je t'aime autant. Tu me fais du bien, je t'aime. Tu me fais du mal, je t'aime autant. Tu me parles, je t'aime. Tu me parles pas, je t'aime autant. Et on a un très, très beau, un très bel exemple ici. Ça aussi, c'est pas facile. Je pensais que c'est facile, non? Je rentre ici le dimanche et il arrive que si je dis pas bonjour à quelqu'un, je reçois un coup de téléphone la semaine. Pasteur, je t'appelle, je veux savoir qu'est-ce que tu as contre moi. Ben, j'ai rien. Ah, ben, tu ne m'as pas dit bonjour dimanche. C'est pas facile d'extirper ce qui traîne dans nos cœurs, qui vient de la nature charnelle. Hein? Pourquoi les gens m'appellent comme ça? Parce qu'ils ont peur d'être moins considérés que les autres? Parce qu'ils pensent que je les aime moins que les autres? Je ne vous dis pas que c'est toutes les semaines. Il ne faut pas penser. Faut penser mal non plus. Hein? Mais ça arrive, peut-être une fois, deux fois par année. Et le Seigneur nous montre, même si je sais qu'il y en a un qui va me renier, même si je sais qu'il y en a un qui va jurer pas me connaître, même si je sais que tantôt il y en a un qui va me donner un baiser brûlant qui vient direct de l'enfer, je vais l'aimer jusqu'à la fin. Quel exemple que Jésus nous laisse ce matin. Verset 1, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de quitter ce monde, c'est-à-dire qu'il savait que le temps était compté, que sa crucifixion était proche. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, écoutez bien ceci. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Frères et sœurs, Jésus les a aimés jusqu'au bout. Il n'a pas cessé de les aimer. Si vous examinez la vie de ces gens, ils n'étaient pas tous aimables à ce moment-là. Pierre allait faire des imprécations, comme je viens de le dire, jurer, nier, connaître Jésus. Jean parlait pour savoir qui allait être le plus important dans le royaume de Dieu. Et ils étaient remplis de toutes sortes de craintes, et pourtant Jésus va continuer à les aimer. Assez souvent, nous cherchons des excuses. J'ai fait cela, et toi aussi, tu as fait la même chose. Hein, c'est ce que j'appelle le syndrome d'Adam. Hein, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Puis la femme, elle se tourne, elle dit, c'est pas moi, c'est le serpent que tu nous as donné. C'est qui l'imbécile, finalement, dans ça? C'est Dieu. Si Dieu n'avait pas créé le serpent, la femme ne serait pas tombée. Puis si Dieu n'avait pas créé la femme, ben Adam ne serait pas tombé. Et là, on voit un petit peu le contexte ici. C'est à peu près comment les disciples réagissent. Nous cherchons des excuses quand nous sommes irritables. À quel moment, lorsque nous sommes fatigués, épuisés, ou que nous avons connu une journée difficile, ou encore que nous avons été maltraités par les gens. Et qu'est-ce qui arrive? Nous écorchons les gens, nous cassons du sucre sur leur dos, et nous disons... Eh bien, après tout, si tu savais tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, tu me comprendrais. Et heureusement que Jésus n'a pas réagi comme ça. Hein. Il n'aurait pas lavé les pieds de ses disciples. Il aurait peut-être eu beaucoup de difficultés à pardonner à ses disciples, sachant d'avance qu'il ferait. La Bible nous dit qu'il les a aimés jusqu'à la fin. Face à la croix, Jésus va exprimer son amour, sachant que son heure était venue, qu'il allait le crucifier. Il montre toujours et encore combien son amour est indéfectible. Peu importe ce qu'il sait que nous allons faire, il va toujours nous aimer. Si maintenant notre soi-disant amour ne résiste pas dans les périodes difficiles, nous n'avons pas vraiment l'amour de Jésus en nous, frères et sœurs. Si vous êtes capable d'aimer seulement quand tout va bien, écoutez bien ce que je vous dis, si vous êtes capable d'aimer seulement quand tout va bien, n'importe quel païen peut faire la même chose. Vous êtes amen à ça? Oui. Ce que Jésus est en train de faire, c'est aimer alors que la pression est à son maximum. C'est l'amour qui résiste à la pression. Il vous est peut-être arrivé de vous emporter devant quelqu'un en disant « Je suis désolé, j'ai tellement subi de pression, je te demande pardon. » Si vous voulez savoir, frères et sœurs, de quoi votre cœur est rempli, vous n'avez qu'à observer ce qui sort de votre bouche lorsque vous êtes bousculé ou sous pression. Si lorsque vous êtes sous pression, ce qui sort de votre bouche sont des paroles peu édifiantes, c'est ce dont votre cœur est rempli. Si lorsque vous êtes bousculé, ce qui sort de votre bouche sont les paroles qui incitent à l'amour, c'est que votre cœur est rempli d'amour. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que je suis en train de dire, c'est que Jésus fait face à de grandes difficultés ici. Il subit une pression extrême, sachant que dans peu de temps, on viendrait l'arrêter, on le condamnerait et on le crucifierait. Mais il va montrer jusqu'à quel point il aimait ses disciples. Le véritable amour, l'amour chrétien, aime de façon indéfectible. Il aime jusqu'au bout. Et si mon frère ne me parle plus, je n'ai pas à le juger, je n'ai pas à le condamner, Dieu me demande de prier pour lui. Pourquoi Dieu me demande de prier pour lui? Parce qu'on entre dans un raisonnement humain et on sait que c'est un combat d'ordre spirituel. Mon frère, il ne me parle plus, puis peut-être il pense qu'il a raison à 100%. Alors, la seule chose, c'est de débloquer ça, et ça se débloque à partir des lieux célestes. C'est par la prière. T'envoies ça au trône, ça nous dépasse, ces choses-là. Et Dieu va agir. Et j'ai appris une chose par expérience. Plus Dieu attend pour agir quand on lui appartient, plus ça fait mal. L'auteur des Proverbes nous dit, « L'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. » Plus tu es orgueilleux, plus ça prend du temps avant que Dieu intervienne. Pourquoi? Parce que tu es tellement haut que quand tu vas dégringoler, ça va faire mal, tu vas dégringoler de plusieurs étages. Et il faut prier. Il faut prier pour les frères et sœurs. Il faut prier pour ce monde. Parce que les gens, quand ils font quelque chose, ils ont l'impression d'avoir raison à 100%. Je suis convaincu, en tout cas, si vous êtes normal et si vous êtes vraiment des frères et sœurs en Christ, que quand vous faites quelque chose, vous ne le faites pas contre volonté en sachant que vous avez tort, vous le faites parce que vous savez que vous avez raison à 100%, sans penser que vous pouvez aussi vous tromper. Amen. Nous avons tous eu des amis, nous les appelons les amis des beaux jours. Comme les passagers sur un bateau, lorsque tout va bien, ils sont à bord avec nous, mais lorsqu'une tempête se lève, que les vagues menacent de nous envahir, ils quittent le navire. Si quelqu'un nous aime vraiment de l'amour de Jésus, il ne nous abandonnera jamais, il va nous aimer jusqu'à la fin. Et même dans le malheur, il va être à nos côtés pour prier, pour nous encourager, pour nous supporter. Frères et sœurs, un homme avait un fils qui lui fendait le cœur. Il s'était presque ruiné en essayant de récupérer son garçon. Il avait consulté des gens pour aider son fils sans succès. Son fils avait été suivi par des psychologues, mais rien n'y fit. Il priait sans arrêt, continuellement, pour son fils. Le fils avait déshonoré son père et avait fait éclater le cœur de sa mère en 1000 morceaux. Le père avait essayé tout ce qu'il pouvait pour pouvoir récupérer son fils. Un jour, il rencontre un ami et il lui parle du problème qu'il vivait avec son fils. Cet ami lui dit, « Je vais te dire, moi, ce que je ferais si c'était mon fils. » Et le père de répondre, « Tu as raison. Si c'était ton fils, c'est ce que je ferais moi aussi. Mais voilà, ce n'est pas ton fils. C'est mon fils. » Et je ne peux pas l'abandonner. J'aime bien cette réponse du Père, c'est mon fils. Je ne connais pas tous vos vies, mais il y a sûrement des enfants qui vous ont énormément déçus dans vos vies. Des enfants qui ont été élevés dans l'Église. Des enfants qui ont mis Dieu de côté, qui sont partis dans le monde. Je m'adresse aux mères des fils ou des filles qui vous ont peut-être fait éclater votre cœur en mille morceaux. Je m'adresse à des pères aussi, on parle de l'instinct maternel, mais je dois vous dire, en tant que père, qu'on a aussi un instinct paternel. Et quand on éduque nos enfants dans les voies de Dieu, puis qu'on voit qu'ils décident de choisir le monde, ça nous fait mal. Ça peut même nous empêcher de dormir. Ça peut même faire saigner notre cœur. Mes frères et sœurs, peu importe ce que mes enfants feraient, jamais je ne les abandonnerai. Le minimum que je peux faire pour eux, c'est au moins prier pour eux chaque jour. Pour que Dieu puisse les briser, les casser en morceaux, pour qu'ils puissent, dans un esprit d'humilité, venir devant la croix de Jésus-Christ et dire pardon. Je préfère qu'ils demandent d'abord pardon à Dieu. Et si le Saint-Esprit les convainc de venir me demander pardon après, ils viendront me voir. Et ce qui est important, c'est d'obtenir le pardon en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Amen. Peu importe ce que vous avez fait, Dieu ne vous abandonnera jamais. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les a aimés jusqu'à la fin. Quel réconfort de savoir que Dieu ne nous délaissera jamais. Et j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole de Dieu! J'ai l'assurance que rien, le diable peut s'acharner sur moi, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Vous savez ce que le diable a chuchoté dans les oreilles de certains d'entre vous et qu'il est en train de chuchoter encore maintenant, ce matin? Tu t'es souillé, tu as tout gâché. Dieu ne t'aime plus et tu l'as bien mérité. Frères et sœurs, c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Parce que Dieu vous aime et son amour ne vous fera jamais défaut. Et si on pense que Dieu, on ne le voit pas, ben qui nous dit que c'est vrai? Eh bien, on le voit à travers Jésus-Christ qui est Dieu fait homme. À travers l'épreuve qu'il vit dans Jean chapitre 13. Il n'abandonne pas les siens. Il les aime jusqu'à la fin, nous dit le texte biblique. Alors, frères et sœurs, vous pouvez avoir l'assurance que Dieu, en Jésus-Christ, n'a pas aimé les siens jusqu'à la fin parce que c'était ses disciples, mais il va vous aimer jusqu'à la fin parce que vous êtes ses enfants. Et parce que Dieu a tellement aimé le monde, il a envoyé son Fils dans le monde. Et la parole nous dit non pas pour juger le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Et si vos enfants sont dans le monde, Dieu les aime autant qu'il vous aime et il veut les sauver. J'espère que vous avez cette assurance-là ce matin, frères et sœurs. Amen! Il n'y a rien que vous puissiez faire qui puisse l'amener à vous aimer davantage. Je le répète, je l'ai dit la semaine passée. Et il n'y a rien que vous pouvez faire de plus, de pire ou de mal qui puisse l'amener à vous aimer moins. Il ne nous aime pas parce que nous sommes aimables, frères et sœurs. Dieu nous aime parce que c'est un Dieu gracieux. Il a aimé les siens qui étaient dans le monde et il les a aimés jusqu'à la fin. Et la parole dans Hébreux nous dit qu'on peut s'approcher devant le trône de la grâce de Dieu. La grâce, elle est encore disponible pour tout le monde, mais viendra un jour, comme avec l'arche de Noé. Le trône de grâce va se fermer. Et ce sera le trône de jugement. Et ça va être terrible. Comme à l'époque de Noé, seuls ceux qui auront la foi seront sauvés. Les autres seront condamnés. C'est triste. C'est épouvantable quand on sait où ils sont. Vous voulez avoir une image de l'enfer au-delà du feu? Méditez bien les paroles de Jésus quand il parle du feu de la Géhenne, quand il parle de l'enfer, et ainsi de suite. Les gens qui sont appelés à passer l'éternité en enfer, vous savez ce qui va arriver à la fin des temps? Il va y avoir les boucs, il va y avoir les brebis. Les brebis vont entrer dans le royaume de Dieu. Les boucs vont être chassés et envoyés en enfer. Dieu va leur montrer le paradis qu'ils ont perdu pour toute l'éternité. Ils vont voir ce paradis perdu chaque jour de leur vie et ce pendant toute l'éternité. Voilà pourquoi il y aura des grincements dedans, pas parce que les gens vont bouillir, parce que les gens vont chauffer, parce que les gens vont être brûlés. Les gens vont voir ce qu'ils ont perdu pour l'éternité, minute après minute, seconde après seconde, et ce pour toute l'éternité. Et ils vont se mordre les doigts, et ils vont grincer des doigts, et ils vont regretter toute leur vie de ne pas avoir pris de décision. Frères et sœurs, ne sous-estimons pas ce que Dieu est en train de nous préparer. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. Paul a été transporté dans le ciel et il a dit que Dieu ne lui a pas permis de révéler ce qu'il a vu. Et quand il est revenu, il a dit, écoutez, tout ce que je vois, je considère ça comme de la boue par rapport à ce que j'ai vu. Frères et sœurs, aimeriez-vous ça, vous faire une entrée de garage avec de la boue? Ou vous préféreriez avec un pavé? Ou encore, comme dans la Nouvelle Jérusalem, pavé d'or? Paul dit, c'est de la boue pour moi. Et ce qu'il a vu, ça devait être extraordinaire parce que ça l'a fouetté. Hein? Il nous raconte le nombre de fois qu'il a été lapidé, le nombre de fois qu'il a manqué faire naufrage, le nombre de fois qu'on a voulu l'assassiner. Il n'y avait rien à faire. Moi, j'ai vu. Et par la foi, je continue. J'ai vu mon Sauveur vivant et je continue. Permettez-moi de vous donner une définition de l'amour. Aimer, ce n'est pas donner à quelqu'un ce qu'il mérite. Aimer, c'est donner à quelqu'un ce qu'il a besoin. Aimer, ce n'est pas donner à quelqu'un ce qu'il mérite. Aimer, c'est donner à quelqu'un ce qu'il a besoin. Voilà comment agit celui qui aime véritablement. L'amour véritable ne nous donne pas ce que nous méritons, mais ce dont nous avons besoin. Nous ne méritions pas le salut, nous avions besoin du salut, et dans sa grâce, dans son amour, Dieu nous a donné son salut. Un prédicateur fort connu se trouvait assis dans un restaurant, dans un aéroport. Il était tôt le matin, il voulait déjeuner. La serveuse se présente à sa table et d'un ton fort désagréable, elle lui dit, « Que puis-je faire pour vous? » Il répondit, « C'est pas chez McDo, hein? Ouais, hein? C'est pas le même ton, hein? Quick, McDo, c'est pas pareil, hein? Ceux qui vont chez Pizza Hut aussi, c'est la même chose, hein? C'est pas le même ton. Qu'est-ce que vous voulez? » Il répondit, « Eh bien, je voudrais déjeuner. » Elle lui dit, « Vous voulez le menu? » Il dit, « Oui, madame. » »« Vous voulez du café? » »« Oui, madame. » »« Voulez-vous un jus d'orange? » »« Oui, madame. » Elle lui dit, « Quoi? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Est-ce que c'est tout ce que vous savez dire? Oui, madame. » « Oui, madame. » Il donna alors sa commande. La serveuse se rendit à la cuisine. Elle revient quelques instants plus tard avec un air toujours aussi désagréable. Dépose sèchement l'assiette sur la table et dit, « Voulez-vous quelque chose d'autre? » Il répondit, « Non, madame. C'est très bien ainsi. Merci, madame. » Puis il quitta la table. Il prit son déjeuner, puis il déposa dans le plateau laissé sur la table par la serveuse le coût du déjeuner. Et si je me souviens bien, il a laissé également un billet de 20 $ de pourboire sur la table. Il venait de se lever, il marchait vers la sortie. Support à verre, prochain travaux. Alors, il prit son déjeuner, déposa son tableau, son plateau, laissa dans un... Aux États-Unis, au Canada, c'est un peu comme ça. Ici, je ne sais pas si c'est comme ça. On vous laisse avec la facture, vous déposez l'argent et vous mettez à côté, vous mettez le pourboire pour montrer que c'est deux choses différentes. Alors, il se lève, il marche vers la sortie lorsque la serveuse l'interpelle. « Hey, vous! Vous avez laissé de l'argent sur la table! » Il répondit, « Pourquoi? Vous n'acceptez pas les pourboires ici? » Elle dit, « Attendez une minute. Vous m'avez laissé 20 $ de pourboire, malgré la façon dont je vous ai traité. » Il répondit, « Oui, madame. » Elle lui dit, « Pourquoi avez-vous fait cela? » Il lui a dit, « Je vous ai observé, je peux dire que vous vivez des moments difficiles dans votre vie. J'aurais pu vous dire des choses qui auraient pu vous gêner, mais j'ai pensé qu'il était préférable que je vous manifeste beaucoup d'amour. » Elle commence à pleurer et elle lui dit, « Vous ne savez pas tout ce que je vis présentement. Ce matin, en venant travailler, j'ai dû laisser mon enfant qui a 3 ans. J'ai dû le laisser à la maison pour venir travailler. Ma vieille voiture est tombée en panne et à cause de cela, je suis arrivé en retard et le patron m'est tombé dessus en criant après moi. Oui, j'ai des problèmes. » Il lui dit, « J'ai pensé que c'était le cas et que ce que je vous ai laissé comme pourboire vous remonterait peut-être la morale. » Frères et sœurs, cela n'a pas pris beaucoup de temps pour qu'il la conduise à Christ, là, dans ce restaurant. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle l'amour qui vient de Christ. Cet amour consiste à ne pas lui avoir donné ce qu'elle méritait, mais de lui avoir donné ce dont elle a besoin. Et ce dont elle avait besoin, c'était de l'amour. Mes frères et sœurs, à partir du moment où on réalise que ce que le monde a besoin, c'est d'entendre parler de l'amour de Jésus-Christ, eh bien, ça va nous fouetter, ça va nous stimuler. Quand il y aura des portes qui pourront s'ouvrir, des occasions, on pourra dire, écoute, maintenant voici moi ce qui fait mon bonheur. Voici ce qui me permet de continuer à avancer dans ce monde. Une rencontre que j'ai faite un jour avec la personne de Jésus. Qu'est-ce que les disciples méritaient? Ils ne méritaient pas d'avoir les pieds lavés. méritait beaucoup plus d'avoir un bon coup de pied au derrière, frères et sœurs. Ils méritaient pas d'être lavés. Mais Jésus savait qu'ils avaient besoin d'amour. Et l'amour qui vient de Christ est un amour qui est au service de son prochain. J'espère que c'est pas vulgaire ce que j'ai dit, non? Coup de pied haut. OK. Frères et sœurs, si les membres de notre Église avaient tous cet amour de Christ en eux, nous n'aurions pas besoin de demander, voire même de supplier les gens pour s'investir à la garderie, pour s'investir à l'école du dimanche, pour faire la vaisselle, pour s'investir dans un ministère quelconque dans l'Église. Frères et sœurs, l'amour de Christ, c'est un amour qui est au service des autres. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Lorsque l'amour de Christ habite en nous, il n'y a pas de travail trop insignifiant à faire. Jésus, le Seigneur de gloire, était au service de son prochain et il a lavé les pieds sales de ses disciples. Il y a une quatrième caractéristique, on va la passer, vous la lirez sur Internet, c'est l'amour qui est un amour qui sanctifie l'amour de Christ, c'est-à-dire un amour qui nous pousse à vivre comme Jésus a vécu, c'est-à-dire un amour qui nous pousse à obéir à la parole de Dieu. En terminant, permettez-moi de vous poser deux questions. Supposons maintenant que la porte de l'Église avant s'ouvrait et que Jésus y entrait physiquement avec une serviette autour de sa taille et un bassin et qu'il vienne vers vous ce matin en vous regardant dans les yeux et qu'il vous dise « Est-ce que je peux te laver les pieds? » Comment réagiriez-vous ce matin? Vous ne diriez pas « Seigneur, tu ne laveras jamais les pieds? » Et s'il vous disait, si je ne te lave pas les pieds, je ne peux pas avoir de communion avec toi. Je suis convaincu que les larmes couleraient sur vos coups, que sur vos joues, que vous laisseriez alors Jésus vous laver les pieds. Pouvez-vous imaginer Jésus en train de vous laver les pieds ce matin? Pensez à cela. Et avec des larmes de gratitude et d'amour, vous le laisseriez faire. Supposons maintenant qu'il tiendrait le bassin dans ses mains et qu'il vous dise, veux-tu me laver les pieds ce matin? Que diriez-vous? « Oh oui, Seigneur, oh, volontiers, je vais te laver les pieds, je le ferai sans hésiter. » Eh bien, mettez toute excuse de côté, frères et sœurs. Jésus-Christ est ici aujourd'hui. Non pas dans sa forme corporelle, mais là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Il est ici ce matin. Et je veux vous dire qu'il veut aujourd'hui laver vos pieds spirituels. Voici la dernière question. Laveriez-vous ses pieds? Vous dites, je ne pourrais pas le faire parce qu'il n'est pas ici physiquement. Écoutez ce que Jésus dit maintenant. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Est-ce que vous saisissez cette parole, frères et sœurs? Toutes les fois que vous lavez les pieds spirituels d'un de vos frères et de vos sœurs, vous lavez les pieds de Jésus. Toutes les fois que vous refusez de pardonner à un de vos frères, vous faites comme Pierre, vous dites, « Non, Jésus, tu ne me laveras pas les pieds parce qu'on n'est pas animé de l'Esprit de Jésus-Christ. » Il y a des gens qui se disent chrétiens qui sont incapables de pardonner à leurs frères et à leurs sœurs. Et malheureusement, avec tristesse, je dois vous dire qu'un des signes extérieurs de la nouvelle naissance, c'est d'être capable de pardonner. Ça, c'est un signe extérieur de la nouvelle naissance. Si Jésus a pardonné à tous ceux qu'il a fréquentés en tant que disciple, qu'il a même donné une chance à Judas, n'oubliez pas que Judas était là quand Jésus a lavé les pieds. Jésus a lavé les pieds de Judas. C'est après le repas qu'il a dit, écoute, va, ce que tu as à faire, fais-le vite, va. Mais là, alors qu'il savait ce que Judas ferait, il lui a lavé les pieds. Alors qu'il savait ce que Pierre ferait, il lui a lavé les pieds. Alors qu'il entend les disciples en train de se battre, c'est moi le plus grand, sinon c'est pas toi, c'est moi. Je vais être assez à droite, je vais être assez à gauche. C'est moi le plus fort, non, c'est pas toi. Il va leur laver les pieds. Frères et sœurs, quel sauveur merveilleux nous avons. Lorsque vous lavez mes pieds, vous êtes en train de laver les pieds de Jésus parce que je fais partie du corps de Christ. Je vais tomber, vous allez tomber, tout comme les disciples sont tombés. Mais frères et sœurs, quel est notre ministère? Soyez bons les uns envers les autres, dit Paul, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Combien il y a de chrétiens qui disent, moi, avant de lui pardonner, je vais attendre qu'il me pardonne. Hé, hey, qu'est-ce que c'est ça? Vous vous imaginez si Dieu avait dit, avant que je leur pardonne, ils vont tous me demander pardon avant que j'envoie mon fils pour qu'ils obtiennent le pardon. On est tellement entêtés, tellement bornés, tellement durs que Dieu attendra encore. Dieu nous a brisés à travers l'amour de Jésus. Il ne nous a pas dit juste qu'il l'aimait, je l'ai dit tantôt dans ma prière. Il l'a démontré. J'ai de la difficulté à comprendre qu'un chrétien qui est né de nouveau puisse avoir de la rancune à la vie contre quelqu'un. Merci Seigneur que tu ne sois pas un rancunier. Parce que ça ferait longtemps qu'il m'aurait arraché la tête. J'ai de la difficulté à comprendre qu'il y a des chrétiens qui sont incapables de parler à leurs frères et sœurs en Christ. Heureusement que le Seigneur nous tend l'oreille à tous les jours quand on prie malgré ce qu'on a fait de mal. La nouvelle naissance, frères et sœurs, c'est le secret pour la paix dans notre cœur, pour la joie dans notre cœur, pour être capable d'être gracieux envers ceux qui nous font du mal, pour être capable d'aimer les autres comme Christ nous a aimés. Ça, ça fait partie de la nouvelle naissance. Quand je n'ai pas ces éléments-là en main, je dois me remettre en question. Soit que je suis religieux, ou soit que je suis né de nouveau, mais que je suis très, très éloigné du Seigneur. Mais le Seigneur nous donne un exemple ce matin. Il n'en voulait pas à Pierre, il n'en voulait pas à Jacques, il n'en voulait pas à Judas. Je suis qui, moi, pour commencer à en vouloir après un, après l'autre, qui me fait du mal? Je suis qui, moi, pour en vouloir après un, après l'autre, qui ne me parle pas? Seigneur, tu vois toutes choses? Je ne sens que les mains, Seigneur. Je suis sous ta protection. Il n'y a personne qui peut me faire quoi que ce soit qui peut toucher un seul cheveu de ma tête si toi, tu ne le permets pas, Seigneur. Dites amen à ça. Et Seigneur, si tu permets qu'on m'arrache, que je devienne chauve parce qu'on m'en a de trop arraché, bien, je te rends gloire, Seigneur, parce que à travers ces épreuves, c'est que tu veux que ton enfant que je suis te glorifie. Connaissez-vous quelqu'un qui a besoin que ses pieds soient lavés ce matin? Quelqu'un qui vous a fait du tort? Il ne nous a peut-être pas fait autant de tort que les disciples en ont fait à Jésus. Mais pensez à Pierre. Il va faire des imprécations. J'ai dit ça la semaine passée. Les imprécations, vous savez ce que c'est? Vous lirez dans Matthieu 28. Je jure que je ne connais pas cet homme. Que Dieu me maudisse si je mens. L'apôtre Pierre. Vous savez ce que Jésus a dit? Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Pierre le renie. Et pas à peu près, hein? Pierre, il n'a pas mis la petite dose, hein? À fond de train, Pierre. Y a-t-il autre chose que je peux rajouter encore? Je vais y donner. Sauver ma peau. Vous savez pourquoi Jésus n'est pas menteur? Vous savez pourquoi Jésus a pardonné? Parce que Pierre s'est repenti. Il n'a pas dit, celui qui me reniera devant mon Père, je le renierai devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père, et je ne lui pardonnerai jamais. Non. Il laisse encore la porte dans sa grâce, il laisse la porte ouverte. À celui qui se repent, qui reconnaît qu'il est coupable, il lui ouvre encore la porte, il garde la porte ouverte. La porte de la grâce qui passe par la croix, il la garde encore ouverte. Et ce matin, si c'est votre cas, la porte, elle est toujours ouverte. Parce qu'on a un Dieu qui est gracieux et sauveur, qui est merveilleux. Et je peux vous dire que ce matin, cette église sera un endroit merveilleux lorsque nous permettrons à Jésus de laver nos pieds et de nous garder purs jour après jour. Y a-t-il quelqu'un que vous connaissez dont les pieds ont besoin d'être lavés aujourd'hui? Seriez-vous capables, frères et sœurs, de vous humilier pour les laver? Pas de lui laver en regardant Essayez d'imaginer comment Jésus a pu laver les pieds de ses disciples. Je suis convaincu d'une chose, il ne les a pas regardés de haut. Vous imaginez en train de laver les pieds de Judas? Et Judas, il devait trembler, quoi. Les battements du cœur de Judas devaient battre 180 à la minute. Il n'a jamais regardé quelqu'un. Jamais. Ça, c'est l'humilité que Dieu nous demande d'avoir en Jésus-Christ. Permettez-moi de vous dire quelque chose concernant le lavement des pieds. Vous ne pouvez pas laver les pieds de quelqu'un si vous n'avez pas un esprit d'humilité. L'orgueil et l'humilité empêchent, l'orgueil empêche quelqu'un de laver les pieds de l'autre. Parce que l'orgueil nous permet toujours de voir mon prochain comme étant inférieur à moi-même. L'orgueil me permet de me voir toujours supérieur à mon prochain. Et Jésus nous donne un bel exemple dans Jean chapitre 13 ici ce matin. Il y a une chose qu'il est impossible de faire et c'est de regarder quelqu'un de façon orgueilleuse pendant que vous lui lavez les pieds. Vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas regarder quelqu'un de haut pendant que vous lui lavez les pieds. Jésus a mis de côté ses vêtements. Mettons de côté notre orgueil et la position que nous occupons, frères et sœurs. Jésus a mis de côté sa divinité et sa gloire pour laver les pieds de ses disciples. Je suis tellement heureux pour cela. C'est si bon de sentir que ses pieds ont été lavés avec vos orteils qui bougent de cette façon. C'est si bon. Et chers amis, c'est si bon lorsque vous dites « Je suis purifié. Mon cœur est pur. » Nous pouvons dire merci Seigneur Jésus parce que nous savons que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner tout péché. Et c'est alors que nous pouvons nous asseoir à la même table que lui et être en communion avec lui. Amen. Il y a tellement de gens qui ont grandement besoin d'amour. Ils ont besoin de voir cet amour désintéressé, indéfectible, qui est au service des autres et qui marche dans la pureté de la parole. En d'autres mots, ils ont besoin de voir l'amour de Christ en action, frères et sœurs. Nos enfants ont besoin de voir l'amour de Christ en action dans nos vies. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, que notre Église soit une colonie du ciel, débordant de l'amour de Jésus-Christ.